Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Vincent et moi, nous sommes très heureux d'ouvrir le colloque « La religion des Chinois de France » qui va vous présenter les résultats de notre projet de recherche collectif. Je voudrais d'abord rappeler les origines de notre projet. D'abord, fin 2006, dans le cadre du projet collectif du GCRL, élaboré par Sébastien Fatt, intitulé « Dieu change à Paris » et qui s'attache à étudier la mutation religieuse dans la capitale française. Nous avons formé un petit groupe, Caroline, Qizhe, Pan Junliang, Yuxiong, et commencé un inventaire des lieux de pratique religieuse de Chinois à Paris et en Île-de-France. Les tout premiers résultats de ces investigations préliminaires esquissent une cartographie des lieux de cartes d'une diversité et d'une densité inattendue avec le flux d'immigration successif, notamment l'arrivée massive des réfugiés ex-indo-chinois pendant 1975 et 1987. Et celle provenant de la région de Wenzhou, depuis la politique d'ouverture économique en Chine à la fin des années 70. En moins de quatre décennies, et dans une grande discrétion, la religion chinoise proprement dite s'est implantée en France. Le nombre de lieux de pratique a connu une croissance spectaculaire. À part des petits hôtels du dieu du sol et de la richesse, plusieurs temples communautaires dans lesquels sont vénérés ensemble les divinités bouddhistes, taoïstes et locales. Temples bouddhiques, temples des nouvelles religions chinoises. De plus, un nombre impressionnant d'églises protestantes chinoises se crée et se subdivise de façon dynamique. Tout cela a radicalement modifié la situation observable jusqu'aux années 1970, où le catholicisme était la seule identité religieuse revendiquée par des Chinois installés en France. La réalité de cette expansion religieuse passe pratiquement inaperçue dans le contexte de la société française, où les questions économiques et démographiques liées à la présence chinoise focalisent l'attention. Pourtant, il s'agit d'un phénomène majeur de transfert religieux, créant des situations inédites de cohabitation religieuse entre la population chinoise et la société d'accueil. L'autre origine de ce projet est la demande sociale et politique. Certains d'entre nous ont souvent été sollicités et questionnés par des institutions médicales, juridiques et éducatives pour des éclaircissements quant au contexte culturel, incluant le religieux, des sortissants de l'immigration chinoise. D'autres, au cours de leurs conférences ou à la suite d'articles grand public, sont également interrogés sur le thème des religions chinoises à Paris. Depuis notre première journée d'études sur la religion des Chinois en Île-de-France, premier perçu en janvier 2009, Et tout au long de notre projet, nous avons reçu des demandes d'informations émanant d'institutions et d'élus locaux sur le culte pratiqué par les personnes issues du monde chinois. En juin 2014, deux chargés de mission de la délégation à la politique de la ville et à l'intégration à la mairie de Paris sont venus au GCRL pour rencontrer l'équipe et avoir des renseignements sur le rôle à Paris des églises chrétiennes chinoises auprès des seigneurs chinois. Les institutions religieuses chinoises en France restent pour la plupart dans un certain flou légal et à ce titre sont peu visibles et comprises des collectivités locales. Même si des opérations très visibles existent, telles que la procession du Nouvel An chinois dans le 13e arrondissement de Paris, ou l'intégration du temple bouddhique de Foguangshan dans un ensemble religieux à Bussy-Saint-Georges, inauguré en 2011. Il relève de notre responsabilité de répondre de façon ambitieuse et rigoureuse à ces diverses interrogations. Nous avons donc décidé de monter un projet scientifique et de recherche de financement. Au cours de ces recherches, nous avons amélioré le projet et élargi les terrains d'investigation de l'Île-de-France aux autres régions. Nous avons obtenu en 2010 et 2012 respectivement les financements de la Fondation Jiang Jingguo de Taïwan et de l'ANR. Nous les en remercions chaleureusement. Il n'existe à notre connaissance aucun projet comparable mené en Europe. Les divers travaux portant sur l'immigration chinoise en Europe, dont nous tirons tout le profit possible, ne disent presque rien des dimensions religieuses et culturelles, à quelques rares exceptions près. Se concentrent principalement sur les questions politico-légales et économiques. Les travaux sur les communautés chinoises d'Amérique du Nord ont bien davantage pris en compte les dimensions religieuses. Mais là encore, il s'agit presque toujours des monographies portant sur une religion ou une communauté, excepté quelques volumes collectifs. L'ambition de notre projet est d'établir un panorama global de la situation religieuse des Chinois de France et de montrer le processus de l'implantation de la religion des Chinois dans ses contextes historiques, politiques, économiques et sociaux depuis les lieux du départ, ex-Indochine, Taïwan, Chine, etc., jusqu'au pays d'accueil. D'étudier également les pratiques d'institutions et mutations religieuses en contexte d'immigration. De cerner le rôle et l'influence de la religion au sein des populations d'origine chinoise et son impact sur la société française. Comparer enfin le cas français avec les institutions, avec les situations dans diverses implantations chinoises en Europe et en Amérique du Nord. Maintenant, je laisse Vincent continuer.
Merci, Ling. Donc, maintenant que nous avons dressé le cadre de ce projet, ses origines, ses motivations. Je voudrais rapidement évoquer les quelques grandes questions transversales qui ont inspiré nos travaux de terrain, le choix de des communautés que nous avons observées, avec lesquelles nous avons travaillé, mais aussi notre travail collectif, avant de parler de nos méthodes de recherche et puis d'esquisser, pour conclure cette allocution inaugurale, quelques premières pistes de synthèse. Alors, les questions transversales qui nous ont inspirés pendant ces quelques 10 années de travail collectif sont très nombreuses. J'en retiens 3 principalement, qu'on va retrouver, je pense, dans la plupart des interventions au cours de ces 3 journées. La première, c'est: qu'est-ce que la migration fait à la religion chinoise ? En effet, sans doute par contraste avec un bon nombre de travaux sur des religions en situation de migration, notre point de départ, pour la grande majorité des membres de ce projet, est une expérience de travail en Chine même. Et expérience qui continue d'ailleurs, tout en faisant ce projet, nous continuons à travailler sur le terrain situé en Chine même. Donc ce qui nous intéresse, ce n'est pas uniquement la situation de la migration, ce n'est pas uniquement le cas français, c'est aussi de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la vie religieuse des communautés chinoises quand elles se déplacent en France ou dans d'autres lieux. Est-ce que c'est fondamentalement le même terrain religieux, ou est-ce qu'on peut voir des éléments de ce paysage religieux qui disparaissent ou qui s'estompent, d'autres qui seraient accentués ou qui seraient créés ex nihilo? Et donc, à partir de nos travaux, observer la situation des religieuses des Chinois en France permet de modifier, d'enrichir notre modèle général d'analyse de la religion chinoise? Et c'est pour cela que, au cours de nos essais comparatifs, nous avons essayé de comparer ce qui se passait en France avec ce qui peut se passer dans des villes comme Londres, Rome, New York, Vancouver, mais aussi avec des villes comme Hong Kong ou Shanghai, qui sont aussi des villes de migration et dans lesquelles on voit des phénomènes assez semblables à ceux qu'on peut observer sur le terrain français: une forte déterritorialisation, même s'il y a aussi de la reterritorialisation, la présence d'un marché religieux globalisé, et puis aussi, élément très important, enfin, dont l'importance est apparue progressivement au cours de nos travaux, le fait que les nouvelles technologies modifient les distances, modifient le rapport à l'espace, avec le téléphone, avec Internet, avec WeChat, entre autres. Les Chinois de Paris sont aussi en Chine. Et donc, cela nous a amené à réfléchir sur la différence importante qu'il faut observer entre, d'une part, la migration et, d'autre part, la globalisation. Deuxième grande question: quelles sont les spécificités du cas français? Pour faire, maintenant qu'on a essayé de placer nos réflexions dans un cadre général d'analyse de la religion des Chinois, en faisant un retour sur le cas français, qu'est-ce que l'on peut voir de spécifique? Alors bien sûr, les migrations chinoises sont différentes en France de ce qu'on peut observer dans d'autres pays européens, nord-américains ou ailleurs dans le monde, en Amérique du Sud, dont on parlera, en Asie du Sud-Est. Elles sont différentes dans le temps, dans leur chronologie, et l'approche historique est essentielle pour nous, dans leur composition ethnique et régionale. Bien entendu, il n'y a pas une communauté chinoise, il y a des communautés chinoises qui sont différentes. On en reparlera aussi. Mais aussi, il y a le contexte français, avec sa culture et son histoire religieuse, et le cadre politique, juridique, de la laïcité. Voilà. Pour donner juste rapidement 2 exemples, qui mettent en exergue ces différences, il y a la question de la visibilité des sites religieux. Voilà, une église chinoise protestante, un temple bouddhique, un temple d'Iguandao, par exemple, ne s'affiche pas du tout de la même façon dans l'espace public à Paris ou à Saint-Denis-la-Réunion et à New York ou à Londres. Voilà. Il y a alors évidemment aussi les différences liées à leur forme juridique. Est-ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire en termes de levée de fonds, etc. Et donc, c'est pour cela que comparer un même groupe pour les grandes organisations religieuses chinoises transnationales, dont un bon nombre sont implantées en France, il est intéressant de comparer une branche en France et ailleurs en Europe ou en Amérique du Nord. Mais au-delà des différences, on a aussi été frappé par les circulations des personnes, les personnes elles-mêmes dans leur parcours migratoire, les acteurs religieux, les leaders, les prédicateurs, les spécialistes rituels de ces groupes passent leur temps à circuler. Ils sont très souvent en France, mais ils en passage entre d'autres pays. les informations, les livres, les idées, les brochures, et puis les ressources financières ou autres. Donc, quelle pertinence pour le cadre national? Ou pour prendre la question dans l'autre sens, comme Ling l'a déjà évoqué tout à l'heure, quel impact sur la société française? Les convertis, bien sûr, on verra qu'un certain nombre de groupes religieux chinois dont on va parler ont converti des Français qui, à l'origine, n'ont pas de culture sinophone, mais aussi, plus largement, et c'est tout aussi important, l'impact sur la culture française, les arts, les techniques du corps. On parlera par exemple de l'exemple du Qigong, qui est marquant, mais qui n'est pas du tout le seul. Troisième grande question, quel rôle joue la religion dans l'expansion culturelle chinoise? On a également été frappé au cours de nos observations de terrain par l'importance de la diffusion de la culture chinoise, cette chose assez mal définie, mais qui revêt une grande importance aux yeux de très nombreux acteurs, culture chinoise, qui est diffusée par des institutions tout à fait séculières, les offices culturels des ambassades, les instituts Confucius, etc., mais aussi par des organisations religieuses, des églises catholiques ou protestantes, des temples bouddhiques, Yiguandao ou autres encore, des temples des communautés locales, les Huiguan, etc., qui, pour la très grande majorité d'entre eux, donnent des cours de langue chinoise, mais aussi de culture chinoise, sous différentes formes. Donc, ce rôle, cette présence de la religion dans la diffusion culturelle, nous amène à penser que, nous amène à affirmer l'importance des visions du monde, des cosmologies, on peut dire des croyances, dans cette diffusion culturelle, et à affirmer que la religion n'est pas juste un prétexte ou un langage pour parler d'autre chose, que ce soit de l'économique ou du politique, mais qu'il y a une réalité du religieux, des motivations religieuses dans la diffusion culturelle et dans la circulation des personnes. Voilà, donc pour essayer de répondre à ces grandes questions, Ling voudrait évoquer maintenant les méthodes de travail que nous avons employées.
L'approche interdisciplinaire est inscrite dans la composition même de notre groupe, qui réunit des historiens, des sociologues de religion, d'immigration, et des anthropologues. Au-delà de nos formations respectives, nous avons attachons à faire appel et à croiser diverses méthodologies et concepts issus des sciences sociales au sens large et qui se relèvent opératoires dans le cadre de notre projet. Une approche historique en histoire sociale, histoire de l'immigration, histoire des courants religieux, qui articule archives écrites et histoire orale et fait largement appel à nos expériences sur le terrain chinois. Il nous semble très important de comprendre les stades historiques de la construction des institutions religieuses et de remonter aux engagés de la Réunion aux Chinois venus pendant la Première Guerre pour comprendre la situation contemporaine. Une approche en sociologie et en anthropologie sociale au travers des enquêtes de terrain et des observations participantes. Nos enquêtes de terrain sont menées de deux manières. D'abord, des enquêtes préliminaires des sites de pratiques religieuses. Hormis la région du Grand Paris, ces lieux concernant jusqu'à ici, également Bordeaux, Aix-en-Provence, l'île de la Réunion, et ainsi que la région nord et Picardie. Puis des enquêtes et des études approfondies sur l'histoire et les activités des sites sélectionnés. À part des enquêtes individuelles menées par chaque membre selon ses propres intérêts, nous faisons aussi des enquêtes collectives en grand ou en petit groupe. Cela permet à chacun d'avoir une vision plus large du paysage religieux. Nous observons aussi des personnes qui sont dans plusieurs organisations religieuses différentes. Et ceci est très important pour comprendre la cohérence d'un paysage religieux qui est plus que une juxtaposition d'institutions distinctes. Nous avons mis en place un séminaire mensuel du projet début octobre 2011. Il joue un rôle essentiel dans la cohésion et les activités collectives de l'équipe. Nous avons saisi cette occasion pour partager des nouvelles et des informations et discuter du travail en cours sur le terrain, que ce soit sur les faits, les méthodes ou les problématiques. Nous avons alterné les séances où les membres du projet présentaient leurs enquêtes avec des invitations des spécialistes de l'immigration chinoise, des questions des religions et migrations, des chercheurs travaillant sur d'autres communautés migrantes en France, vietnamiens, tamouls notamment, des juristes spécialisés dans le domaine de la religion. Nous avons aussi invité des acteurs de notre terrain, des spécialistes religieux, comme maîtres bouddhistes, pasteurs, et des pratiquants des nouvelles religions chinoises, nous les invitons à intervenir afin de multiplier les points de vue. Durant ce projet, nous avons organisé deux ateliers internes en retraite. L'un en septembre 2013, l'autre en janvier 2015, accueilli très généreusement par le temple Fo Guangshan. Ils ont permis, d'une part, de faire l'état de l'avancement individuel et global de recherche, d'autre part, de discuter de la méthodologie et de la théorisation. Nous invitons des historiens et anthropologues comme discutants pour apporter un regard extérieur et critique. Ainsi, notre travail comparatif tout au long du projet et pas seulement en conclusion a mené sur trois fonds. Première, comparer la situation en France avec d'autres pays d'immigration. Deuxième, comparer des groupes en France avec les mêmes groupes ailleurs, y compris en Chine. Et troisième, comparer la situation des Chinois de France avec d'autres communautés migrantes. Je passe la parole à Vincent.
Merci. Alors, voilà, je pense qu'il est trop tôt pour donner la synthèse, et puis nous craignons que si nous donnons la synthèse dès le premier matin, la salle va se vider. Donc, je voudrais juste faire quelques promesses des résultats de notre projet pour reprendre tous les travaux qui vont être présentés au cours de ces trois jours. Alors, déjà, ce soir, en conclusion de cette journée, nous aurons une table ronde autour des catégories que nous utilisons dans le cadre de nos travaux, ce qui nous semble être un problème essentiel dans notre dialogue comparatif avec les chercheurs qui travaillent sur d'autres communautés migrantes et aussi dans notre effort de dissémination et notre propre effort d'analyse. Vendredi matin, donc en clôture du colloque, nous présenterons deux résultats importants de notre projet, le film documentaire qui a été réalisé par Liv Yussion, mais avec contribution de la plupart des membres du projet, d'une part, et qui sera ensuite très bientôt diffusé, et d'autre part, la base de données sur les groupes religieux chinois en France, qui a été pilotée par Fang Ling et Caroline Gis, et qui sera également rapidement mise à la disposition de tout le monde, enfin du grand public et des chercheurs intéressés. Troisièmement, bien entendu, des publications. Nous publierons rapidement un volume issu de ce colloque à CNRS Éditions, qui attend déjà avec une grande impatience notre manuscrit, sur lequel nous allons travailler dès vendredi, un numéro de revue et un livre de synthèse plus historique, sans doute rédigé en anglais. Alors, comment nous allons procéder pour rédiger ces analyses? Juste quelques pistes de réflexion. Notre expérience donc sur le terrain chinois, le souci historique vraiment d'historiciser la formation des communautés chinoises en France et leurs institutions religieuses, notre constatation aussi de circulation très importante entre les différents groupes et communautés font que nous insistons sur la vision d'un ensemble plutôt que sur ce qui serait un marché religieux où des groupes seraient indépendants, seraient en compétition les uns avec les autres. Et cette approche d'ensemble insiste aussi sur les pratiques et permet de mettre en valeur les pratiques non institutionnalisées. Donc on ne parle pas seulement des églises et des temples, même si on en parle beaucoup bien entendu, mais aussi des pratiques familiales, les pratiques funéraires, les cimetières, des lieux religieux extrêmement importants dont on va parler à plusieurs reprises aujourd'hui et demain, les pratiques individuelles, la divination, les boutiques d'objets religieux, les restaurants végétariens, etc. Et donc mettre au cœur de l'analyse la famille et les systèmes de valeurs et aussi les pratiques collectives qui ne se donnent pas le nom de religion, la procession du Nouvel An en étant un très bon exemple. Alors comment prendre tous ces éléments dans une analyse d'ensemble? Eh bien nous allons essayer de construire des typologies, des groupes, des communautés et des événements religieux qui prennent en compte différents facteurs. Je vais juste en énumérer quelques-uns très rapidement. Et bien entendu, il y a le facteur confessionnel qu'on ne peut pas ignorer, des institutions et des lieux chrétiens, d'autres bouddhiques, d'autres liés aux nouvelles religions que le monde chinois a produit en très grand nombre tout au long du XXe siècle et qui continue à produire. Une nouvelle religion est, je dirais, pratiquement apparue sous nos yeux au cours de notre terrain et sera présentée dans un instant par Jizhe. Un certain nombre d'entre elles étant liées à ce qui était par ailleurs étudié sous le nom des sociétés rédemptrices par des chercheurs comme David Hornby, entre autres. Le facteur ethnique, très important. Les communautés sont différentes, donc les Chinois venus au sein des groupes de réfugiés venus d'Indochine au cours des années 70 et 80, les communautés Wenzhou, mais aussi si certains groupes religieux ont une identité ethnique ou locale très forte, il faut aussi voir que d'autres, au contraire, sont très mixtes. Il y a un exemple parmi de nombreux autres très intéressants, et celle de cette pagode bouddhique vietnamienne à Joinville, qui depuis une quinzaine d'années a pris une dimension chinoise très très marquée avec l'arrivée d'un maître charismatique, donc le Lin Shanzi. Troisième élément de typologie, l'intégration à des structures internationales. Certains groupes religieux que nous avons observés sont des branches faisant partie de grandes organisations religieuses transnationales qui peuvent avoir leur siège en Chine, en Asie du Sud-Est, mais aussi en Amérique du Nord. On pense par exemple au Zhen Fozong qui compte au moins 3 temples à Paris dont le siège est à Seattle, avec des phénomènes d'une part d'affiliation, des groupes religieux qui s'affilient à ces grands réseaux transnationaux, mais aussi de désaffiliation. On a vu des groupes qui étaient affiliés qui se désaffilient pour devenir purement locaux. Donc cette dynamique constante de d'interaction avec des structures internationales. Des types, je dirais, sociologiques, des groupes religieux très ouverts ou très fermés par rapport à la société d'accueil, fonctionnant en église, fonctionnant en réseau, fonctionnant en prestateur de services religieux. Nous avons aussi tout cet éventail de types parmi les groupes, communautés, événements que nous avons pu observer. Et puis le type de services religieux rendus, qu'ils soient pour certains complets, services rituels, cours, formations, techniques de soi, la pratique religieuse individuelle et aide à l'insertion dans la société d'accueil, ou au contraire des types très spécifiques. Certains des groupes religieux dont nous allons parler se spécialisent, ont une niche dans ce paysage religieux en rendant un type de service particulier plutôt que toute une gamme de services. Voilà, donc autant d'éléments de typologie, liste non limitative, mais qui permettent, qui seront à l'arrière-plan des discussions que nous aurons pendant deux jours et qui permettent de comparer donc, les groupes, les communautés, les lieux, les uns avec les autres. Je propose d'arrêter là avec ces éléments d'introduction et d'enchaîner tout de suite avec la première session.